Octave Feuillet, Julia de Trécœur. Tous ceux qui, comme nous, ont connu Raoul de Trécœur dans sa première jeunesse, le croyaient destiné à une grande renommée. Il avait reçu des dons très remarquables. Il reste de lui deux ou trois esquisses et quelques centaines de vers qui promettaient un maître. Mais il était fort riche et avait été fort mal élevé. Il tourna vite au dilettantisme. Parfaitement étranger, comme la plupart des hommes de sa génération, au sentiment du devoir, il se laissa emporter à toute guide par ses instincts qui étaient, heureusement pour les autres, plus vifs que malfaisants. Aussi le pianit-on généralement quand il mourut en pleine jeunesse pour avoir aimé sans discrétion tout ce qui lui était agréable. Le pauvre garçon, disait-on, n'avait fait de mal qu'à lui, ce qui d'ailleurs n'était pas exact. Trécœur avait épousé à 25 ans sa cousine Clotilde André de Perse, honnête et gracieuse personne, qui n'avait d'une mondaine que les élégances. Madame de Trécœur avait vécu avec son mari dans une région de tempête malsaine où elle se sentait dépaysée et comme dégradée. Il la tourmentait de ses remords presque autant que de ses fautes. Il la regardait avec raison comme un ange et pleurait à ses pieds quand il l'avait trahie, se désespérant d'être indigne d'elle, d'être victime de son tempérament et d'avoir vu le jour dans un siècle sans croyance. Il menaça un jour de se tuer dans le boudoir de sa femme si elle ne lui pardonnait. Elle lui pardonna naturellement. Toute cette partie dramatique troublait Clotilde dans sa vie résignée. Elle eût préféré un malheur plus tranquille, mais sans phrase. Tous les amis de son mari avaient été amoureux d'elle et avaient fondé de grandes espérances sur son abandon. Mais les maris infidèles ne font pas toujours les femmes coupables. C'est même souvent le contraire, tant ce pauvre monde est peu soumis aux lois de la logique. Bref, Madame de Trécœur, après la mort de son mari, demeura sur la rive, épuisée et brisée, mais sans tâche. De cette triste union était née une fille nommée Julia, que son père, malgré toutes les résistances de Clotilde, avait gâtée à outrance. On connaissait l'idolâtrie de M. de Trécœur pour sa fille, et le monde, avec sa mollesse de jugement habituelle, lui pardonnait volontiers sa vie scandaleuse en faveur de ce mérite qui n'en est pas toujours un. Il n'est pas très difficile, en effet, d'aimer ses enfants. Il suffit de n'être pas un monstre. L'amour qu'on leur porte n'est pas en lui-même une vertu. C'est une passion qui, comme toutes les autres, est bonne ou mauvaise, suivant qu'on en est le maître ou le valet. On peut même penser qu'il n'est point de passion qui puisse être plus que celle-là féconde pour le bien ou pour le mal. Julia paraissait magnifiquement douée, mais son naturel ardent et précoce s'était développé, grâce à l'éducation paternelle, comme en pleine forêt vierge, à tort et à travers. C'était une petite personne brune et pâle, souple, élancée, avec de grands yeux bleus, pleins de feu, des cheveux noirs en broussailles et des sourcils d'un arc superbe. Son air habituel était réservé et hautain. Cependant, elle déposait en famille ses apparences majestueuses pour faire la roue sur le tapis. Elle avait des jeux qu'elle inventait. Elle traduisait ses leçons d'histoire en petits drames mêlés de discours au peuple, de dialogues, de musique et particulièrement de courses de chars. Malgré sa mine sérieuse, elle était bouffonne à 16 heures et parodiait cruellement les gens qui ne lui plaisaient pas. Elle montrait pour son père une prédilection passionnée, bizarrement combattue par les sentiments de pitié attendrie qu'inspiraient à son jeune cœur les tristesses de sa mère. Elle la voyait souvent pleurer. Elle se jetait alors à ses pieds en peloton et demeurait là pendant des heures, immobile et muette, la regardant d'un œil humide et buvant de temps en temps une larme sur sa joue. Elle ne lui demandait jamais pourquoi elle pleurait. Elle avait apparemment saisi, comme beaucoup d'enfants, quelques échos de douleur du foyer. Sans nul doute, sa vive intelligence se rendait compte des torts de son père. Mais son père, ce beau cavalier, spirituel, généreux et fou, elle l'adorait. Elle était fière d'être sa fille. Elle palpitait de joie quand il la tenait sur son cœur. Elle ne pouvait ni le juger ni le blâmer. C'était un être supérieur. Elle se contentait de plaindre, de consoler de son mieux cette créature douce et charmante qui était sa mère et qui souffrait. Dans le cercle des relations de Madame de Trécœur, Julia passait simplement pour une petite peste. Les chères madames, comme les appelait, qui ornaient les jeudis de sa mère, se contaient les unes aux autres avec amertume les scènes d'imitation comique dont l'enfant faisait suivre leur entrée et leur sortie. Et les hommes se regardaient comme favorisés quand ils n'emportaient pas un chiffon de soie dans le dos. Tout cela divertissait fort M. de Trécœur. Quand sa fille exécutait, avec une demi-douzaine de chaises, quelqu'une de ces courses olympiques qui faussaient tous les pianos du voisinage, « Julia, criait-il, tu fais pas assez de bruit, casse un vase !» Et elle cassait un vase, sur quoi son père l'embrassait avec enthousiasme. Cette méthode d'éducation prit un caractère plus grave à mesure que l'enfant grandit et devint une fillette. La tendresse de son père se nuança d'une sorte de galanterie. Il l'amenait avec lui au bois, aux courses, aux spectacles. Elle n'avait pas une fantaisie qui le prévint et le combla. Elle eut à 13 ans ses chevaux, son groom et une voiture à son chiffre. Déjà malade et se sentant peut-être mortellement atteint, ce malheureux homme accablait cette fille chère des gages de sa funeste affection. Il éteignit ainsi tous ses goûts par une satiété précoce, comme s'il eût voulu ne lui laisser que le goût du fruit défendu. Julia le pleura avec des transports furieux et conserva pour sa mémoire un culte ardent. Elle avait un appartement particulier qu'elle remplit des portraits de son père et de 1000 souvenirs intimes autour desquels elle entretenait des fleurs. Madame Trécœur, comme la plupart des cousines qui épousent leurs cousins, s'était mariée fort jeune. Elle resta veuve à 28 ans, et sa mère, la baronne de Perse, qui vivait encore et qui était même des plus vivantes, ne tarda pas à lui suggérer discrètement la convenance d'un second mariage. Après avoir épuisé les raisons pratiques et fort sensées d'ailleurs, qui semblaient lui conseiller de prendre ce parti, la baronne en venait aux raisons sentimentales. De bonne foi, ma pauvre fille, disait-elle, tu n'as pas eu jusqu'ici ta part de bonheur terrestre. Je ne voudrais pas dire du mal de ton mari, puisqu'il est mort. Mais entre nous, c'était un fier animal. Mon Dieu, oh délicieux par instant, je te l'accorde. J'y ai été prise moi-même, comme tous les mauvais sujets. D'ailleurs, monstrueux, monstrueux. Eh bien, certes, je ne dirais pas que le mariage soit jamais un état de pure félicité. Néanmoins, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'ici pour jouir honnêtement de la vie entre gens comme il faut. Tu es à la fleur de l'âge, tu es fort agréable à voir, fort agréable. Et tu ne perdras rien, par parenthèse, quand tu seras juponné un peu plus haut par derrière, avec un pouf convenable. Car tu ne sais même plus ce qui se porte, ma pauvre chatte. Tu avoues, ce sont des horreurs. Enfin, que veux-tu? Faut pas se faire remarquer. Bref, je voulais te dire que tu as encore tout ce qu'il faut, et même plus qu'il ne faut, pour fixer un mari, si tant est qu'il y en ait de fixe. Ce que j'aime à croire. Il faudrait d'ailleurs désespérer absolument de la Providence si elle ne nous réservait pas quelques compensations après toutes nos épreuves. C'est déjà un signe manifeste de sa bonté que tu es en embonpoint, ma pauvre mignonne. Allez, embrasse ta mère. Voyons, quand marions-nous cette jolie femme? Il n'y avait nulle exagération maternelle dans les compliments que la baronne adressait à Clotilde. Tout Paris avait pour elle les yeux de sa mère. Elle n'avait jamais été si attrayante, elle l'avait toujours été infiniment. Sa personne, reposée dans la paix de son deuil, avait alors l'éclat d'un beau fruit mûr et frais. Ses yeux noirs, d'une tendresse timide, son front pur encadré dans des nattes magnifiques et vivaces, ses épaules de marbre rose, sa grâce spéciale de jeune matrone à la fois belle, aimante et chaste, tout cela joint à une réputation intacte et à 60 000 francs de rente, ne pouvait manquer de susciter des prétendants. Il en surgissait effectivement une légion. La raison, l'opinion même, qui avait rendu justice à son mari et à elle, la poussait à de secondes noces. Ses sentiments particuliers, quelle qu'en fût la délicatesse naturelle, ne semblaient pas devoir être un obstacle, car il n'y avait rien que de vrai dans son cœur. Elle avait été fidèle à son mari, elle avait donné des larmes amères à ce triste compagnon de sa jeunesse, mais il avait fatigué et usé son affection, et sans jamais s'associer aux récriminations posthumes de sa mère contre M. de Trécœur, elle sentait qu'elle n'avait plus d'autre devoir envers lui que la prière. Il y avait cependant de longs mois qu'elle était veuve, et elle continuait d'opposer aux sollicitations de la baronne une résistance dont celle-ci cherchait vainement la raison mystérieuse. Elle crut un jour l'avoir découverte. « Avoue la vérité, lui dit-elle, tu as peur de contrarier Julia. Ah, pour ceci, ma fille, ce serait par la folie pure. Tu ne peux avoir de ce côté aucun scrupule sérieux. Julia sera très riche de son chef et n'aura aucun besoin de ta fortune. » Elle se mariera elle-même dans 3 ou 4 ans. Oh, je souhaite bien du plaisir à son mari, par parenthèse. Et vois un peu dans quelle jolie situation tu te trouveras. Mais mon Dieu, nous n'en aurons donc jamais fini. Après le père, voilà la fille maintenant. Mon Dieu, qu'elle fabrique des chapelles avec les portraits et les éperons de son père tant qu'elle voudra, ça la regarde. Ce n'est pas moi qui lui ferai concurrence, bien certainement. Mais au moins qu'elle nous laisse vivre. Comment? Tu ne pourrais pas disposer de toi sans lui demander la permission. Alors, si tu es esclave, ma chère petite, mets-toi à la porte. Tu ne saurais rien faire qui lui soit plus agréable. Car elle ne peut pas te sentir, ta fille. Et puis enfin, de bonne foi, qu'est-ce que ça peut lui faire que tu te remaries? Un beau-père n'est pas une belle-mère, oh, c'est tout à fait différent. Eh, mon Dieu, son beau-père sera charmant pour elle. Tous les hommes seront charmants pour elle. Je lui prédis cela, oh, peut-être tranquille, enfin, conviens-en. C'est là ce qui t'arrête? Je vous assure que non, ma mère, dit Clotilde. Je vous assure que si, ma fille. Eh bien, voyons, veux-tu que je parle à Julia, moi, que j'essaie de lui faire entendre raison? J'aimerais mieux lui donner le fouet, mais enfin. Ma pauvre chère maman, reprit Clotilde, faut-il tout vous dire? Elle va se mettre à genoux devant la baronne. Mais certainement, ma fillette, dis-moi tout, mais ne me fais pas pleurer, je t'en supplie. Est-ce très triste que tu as à me dire? Pas très gai. Mon Dieu, enfin, dis toujours. D'abord, ma mère, je vous avoue que je n'éprouverai personnellement aucun scrupule à me remarier. Ah ben, je crois bien, comment donc, il ne manquerait plus que cela. Quant à Julia, que j'adore, qui m'aime bien et qui vous aime bien aussi, quoi que vous en disiez. Oh, persuadé du contraire, dit la baronne, n'importe, poursuit. Quant à Julia, j'ai plus de confiance que vous dans son bon sens et dans son bon cœur. Malgré la tendresse exaltée qu'elle conserve pour son père, Je suis sûr qu'elle comprendrait, qu'elle respecterait ma détermination, qu'elle ne m'en aimerait pas moins, surtout si son beau-père ne lui était pas personnellement antipathique. Car vous connaissez la violence de ses sympathies et de ses antipathies. Ah, si je la connais, dit amèrement la baronne. Eh bien, il faut lui donner une liste de ces messieurs à cette chère petite, et elle fera elle-même ton choix. C'est inutile, ma bonne mère, dit Clotilde. Le choix est fait par la principale intéressée, et je suis certaine qu'il ne serait pas désagréable à Julia. Eh bien alors, ma mignonne, cela va tout seul? Hélas, non. Je vais vous dire une chose qui me couvre de confusion. Parmi tous les hommes que nous connaissons, le seul qui me plaise enfin est aussi le seul qui n'ait jamais été amoureux de moi. Alors c'est un sauvage? Ce ne peut être qu'un sauvage, enfin qui est-ce? Je vous l'ai dit, ma pauvre mère, le seul de nos amis qui ne soit pas amoureux de moi, qui ça? Ton cousin Pierre? Oh non, mais vous brûlez. Monsieur de Lucan, s'écria la baronne. Mais ça devait être, c'est la fleur des pois. Mon Dieu, ma chère petite, que nous avons donc les mêmes goûts toutes les deux. Il est charmant. Ah, oh, embrasse-moi, ne cherche plus, ne cherche plus. Voilà notre affaire positivement. Mais ma mère, puisqu'il ne veut pas de moi. Bon, il ne veut pas de toi à présent. Quelle histoire, mais qu'en sais-tu? Lui as-tu demandé? D'ailleurs, c'est impossible, ma chère petite. Vous êtes fait l'un pour l'autre de toute éternité. Il est charmant, distingué, comme il faut, riche, spirituel, tout, enfin tout. Mais accepté amoureux, ma mère. La baronne se récriant de nouveau contre une si forte invraisemblance, Clotilde lui mit sous les yeux une série de faits, de détails qui ne laissaient point de place aux illusions. La mère, consternée, dut se résigner à cette conviction douloureuse qu'il se trouvait en effet dans le monde un homme d'assez mauvais goût pour n'être pas amoureux de sa fille et que cet homme était malheureusement M. de Lucan. Elle regagna son hôtel en méditant sur ce mystère inouï dont elle ne devait pas, du reste, attendre longtemps l'explication. Chapitre 2. Georges-René de Lucan était intimement lié avec le comte Pierre de Maurras, cousin de Clotilde. Tous deux étaient compagnons d'enfance, de jeunesse, de voyage et même de bataille. Car le hasard les ayant conduits aux États-Unis, quand la guerre civile y éclata, ils avaient trouvé l'occasion bonne pour recevoir le baptême du feu. Leur amitié s'était encore plus solidement trempée dans ces dangers de guerre soutenus fraternellement loin de leur patrie. Cette amitié avait d'ailleurs depuis longtemps un caractère rare de confiance, de délicatesse et de force. Ils s'estimaient mutuellement très haut, et ils avaient raison. Ils ne se ressemblaient d'ailleurs sous aucun rapport. Pierre de Maurras était d'une grande taille, blond comme un Scandinave, beau et fort comme un lion, mais comme un lion bon enfant. Lucan était brun, mince, élégant, grave. Il y avait dans son regard fier et un peu sombre, dans son caractère froid et doux, dans sa démarche même, une grâce mêlée d'autorité qui imposait et charmait. Il n'était pas moins dissemblable au point de vue moral. L'un bon vivant, sceptique absolu et paisible, possesseur insouciant d'une danseuse, l'autre, toujours troublé, malgré son calme extérieur, romanesque, passionné, tourmenté d'amour et de théologie. Pierre de Maurras, à leur retour d'Amérique, avait présenté Lucan chez sa cousine Clotilde, et dès ce moment, il y eut du moins deux points sur lesquels ils furent parfaitement d'accord. Une profonde estime pour Clotilde et une profonde antipathie pour son mari. Ils appréciaient d'ailleurs chacun à sa manière le caractère et la conduite de M. de Tricœur. Pour le comte Pierre, Tricœur était simplement un être malfaisant. Et pour M. de Lucan, c'était un criminel. Pourquoi criminel, disait Pierre, est-ce sa faute s'il est né avec toutes les flammes de l'enfer dans les moelles? Oh, je conviens que je lui casserai volontiers la tête quand je vois les yeux rouges de Clotilde, mais je n'y mettrai pas plus de colère que si j'écrasais un serpent, puisque c'est sa nature à cet homme. Vous me faites horreur, reprenait Lucan. Ce petit système-là supprime simplement le mérite, la volonté, la liberté, le monde moral en un mot. Si nous ne sommes pas maîtres de nos passions, du moins dans une large mesure, et si ce sont nos passions qui nous maîtrisent fatalement, si un homme est nécessairement bon ou mauvais, honnête ou fripon, traître ou loyal au gré de ses instincts, dites-moi donc un peu, je vous prie, pourquoi vous m'honorez de votre estime et de votre amitié? Je n'ai pas plus de droit que le premier venu, que Tricœur lui-même. Pardon, mon ami, dit gravement Pierre. Dans l'ordre végétal, je préfère une rose à un chardon. Et dans l'ordre moral, je vous préfère à Tricœur. Vous êtes né galant homme, je m'en réjouis et j'en profite. Eh bien, mon cher, vous êtes dans une complète erreur, reprenait Lucan. J'étais né, au contraire, avec de détestables instincts, avec les germes de tous les vices. Ah oui, comme Socrate. Oui, comme Socrate, parfaitement. Et si mon père ne m'avait pas fouetté à propos, si ma mère n'avait pas été une sainte, si enfin je n'avais pas moi-même très énergiquement mis ma volonté au service de ma conscience, je serais un scélérat, sans foi ni loi. Mais rien ne dit que vous ne serez pas un jour un scélérat, mon ami. Il n'y a personne qui se puisse devenir un scélérat à son heure. Tout dépend de la force de la tentation. Vous-même, quels que soient vos instincts d'honneur et de dignité, êtes-vous bien sûr de ne jamais rencontrer une tentation qui les domine? Ne pouvez-vous concevoir, par exemple, telle circonstance où vous aimeriez assez une femme pour commettre un crime? Oh non, dit Lucan, et vous? Bon, moi, je n'ai aucun mérite, je n'ai pas de passion. J'en suis désolé, mais j'en ai pas. Je suis né exemplaire. Vous vous rappelez, mon enfant, j'étais un petit modèle, et maintenant je suis un grand modèle, voilà la seule différence. Et ça ne me coûte pas du tout. Ah, allons-nous chez Clotilde? Allons. Et ils allaient chez Clotilde, bien digne elle-même de l'amitié de ces deux braves gens. Ils y étaient reçus avec une considération marquée, même par Mademoiselle Julia, qui paraissait subir à un certain degré le prestige de ces natures élevées. Tous deux avaient d'ailleurs, dans leur tenue et dans leur langage, une correction élégante qui satisfaisait apparemment le goût fin de l'enfant et ses instincts d'artiste. Dans les premiers temps de son deuil, l'humeur de Julia avait pris une teinte un peu farouche. Quand sa mère recevait des visites, elle quittait brusquement le salon et allait s'enfermer chez elle, non sans manifester contre les indiscrets un mécontentement hautain. Le cousin Pierre et son ami avaient seuls le privilège d'un bon accueil. Elle daignait même sortir de son appartement pour venir les rejoindre auprès de sa mère quand elle les savait là. Clotilde avait donc de bonnes raisons de supposer que sa présence pour M. de Lucan obtiendrait légèrement l'agrément de sa fille. Mais elle en avait malheureusement de meilleures encore, pour douter que les dispositions de M. de Lucan répondissent aux siennes. Non seulement, en effet, il s'était toujours tenu vis-à-vis d'elle dans des termes de l'amitié la plus réservée, mais depuis qu'elle était veuve, cette réserve s'était sensiblement aggravée. Les visites de Lucan s'espaçaient de plus en plus. Il paraissait même éviter, avec un soin particulier, les occasions de se retrouver seul avec Clotilde, comme s'il eût pénétré les sentiments secrets de la jeune femme et qu'il eût affecté de les décourager. Tels étaient les symptômes tristement significatifs dont Clotilde avait fait confidence à sa mère. Le jour même où la baronne recevait rue Tronchet ses pénibles renseignements, un entretien avait lieu sur le même sujet, rue d'Aumale, entre le comte de Moras et Georges de Lucan. Ils avaient fait ensemble, le matin, une promenade au bois, et Lucan s'était montré plus silencieux que de coutume. Au moment où ils se séparaient, « À propos, Pierre, dit-il, je m'ennuie. Je vais voyager. »« Voyager où ça ?»« Je vais en Suède. J'ai toujours eu envie de voir la Suède. »« Quelle drôle de chose, vous serez longtemps ?»« Oh, 2 ou 3 mois. » »« Quand partez-vous ?»« Demain. »« Seul ? Oh, entièrement. » Je vous reverrai ce soir au cercle, n'est-ce pas ? L'étrange réserve de ce dialogue laissa dans l'esprit de M. de Moras une impression d'étonnement et d'inquiétude. Il n'y put tenir et 2 heures après, il arrivait chez Lucan. Il vit en entrant des apprêts de départ. Lucan écrivait dans son cabinet. « Oh, ça, mon cher, lui dit le comte, si je suis indiscret, vous allez me le dire franchement, mais ce voyage bâclé ne ressemble à rien. Sérieusement, qu'y a-t-il ? Est-ce que vous allez vous battre hors frontières ? Bon, je vous emmènerai, vous savez bien. Une femme, alors ? Oui, dit sèchement Lucan. Pardon de mon importunité et adieu. » « Je vous ai blessé, mon ami, » dit Lucan en le retenant. « Oui, » dit le comte, « oh, je ne prétends certes pas entrer dans vos secrets, mais je ne comprends absolument pas le ton de contrainte, presque d'hostilité, sur lequel vous me répondez au sujet de ce voyage. Ce n'est pas d'ailleurs le premier symptôme de cette nature qui me frappe et m'afflige. » Depuis quelque temps, vous êtes visiblement embarrassé avec moi. Il semble que je vous gêne, que notre amitié vous pèse. Et j'ai l'idée cruelle que ce voyage est une façon d'y mettre un terme. « Grand Dieu !» murmura Lucan. « Eh bien, » poursuivit-il avec un peu d'agitation dans la voix, « il faut donc vous dire la vérité. » J'espérais que vous l'auriez deviné, c'était si simple. Votre cousine Clotilde est veuve depuis 2 ans bientôt. C'est, je crois, le terme consacré par l'usage. Je connais vos sentiments pour elle, vous pouvez maintenant l'épouser, et vous aurez grandement raison. Rien ne me paraît plus juste, plus naturel, plus digne d'elle et de vous. Je vous atteste que mon amitié vous restera fidèle et entière. « Mais je vous prie de trouver bon que je m'absente pendant quelque temps, voilà tout. » M. de Moras semblait avoir une peine infinie à saisir le sens de ce discours. Il demeura plusieurs secondes après que Lucan eut cessé de parler, la mine étonnée et le regard tendu comme s'il eût cherché le mot d'une énigme. Puis, se levant brusquement et saisissant les deux mains de Lucan, « Bob, c'est gentil, cela, » dit-il avec une gravité émue. Et après une nouvelle étreinte cordiale, il ajouta gaiement. Hey, « Si vous comptez rester en Suède jusqu'à ce que j'aie épousé Clotilde, vous pouvez y bâtir et même y planter, car je vous jure que vous y resterez longtemps. »« Est-il possible que vous ne l'aimiez pas ?» dit Lucan à demi-voix. Bon, je l'aime extrêmement, au contraire, je l'apprécie, je l'admire, mais c'est une sœur, pour moi, purement une sœur. Ce qu'il y a de délicieux, mon cher, c'est que mon rêve a toujours été de vous marier, Clotilde et vous. Seulement, vous me paraissiez si froid, si peu empressé, si réfractaire. Et dans ces derniers temps, surtout, mon Dieu, comme vous êtes pâle, Georges. Le résultat final de cet entretien fut que M. de Lucan, au lieu de partir pour la Suède, se rendit peu d'instants plus tard chez la baronne de Perse, à laquelle il exposa ses vœux, et qui se crut, en l'écoutant, le jouet d'un songe enchanteur. Elle avait toutefois, sous ses airs évaporés, un trop vif sentiment de sa dignité et de celle de sa fille, pour laisser éclater devant M. de Lucan la joie dont elle était oppressée. Quelque désir qu'elle éprouva de serrer immédiatement sur son cœur ce gendre idéal, elle ajourna cette satisfaction et se contenta de lui exprimer ses sympathies personnelles. S'associant d'ailleurs à la juste impatience de M. de Lucan, elle lui conseilla de se présenter le soir même chez Mme de Trécœur, dont elle ignorait les sentiments particuliers, mais qui accueillerait tout au moins sa démarche avec l'estime et la considération dues à un homme de son mérite. Demeurée seule, la baronne s'épancha dans un monologue mêlé de larmes. Elle se fit d'ailleurs une exquise petite fête maternelle de ne pas prévenir Clotilde et de lui laisser tout entière la saveur de cette surprise. Le cœur des femmes est un organe indéfiniment plus délicat que le nôtre. L'exercice incessant qu'elle lui donne y développe des facultés d'une finesse et d'une subtilité auxquelles la sèche intelligence n'atteint jamais. C'est ce qui explique leurs pressentiments, moins rares et plus sûrs que les nôtres. Il semble que leur sensibilité, toujours tendue et vibrante, soit avertie par des courants mystérieux et qu'elle devine avant de comprendre. Et Clotilde, lorsqu'on lui annonça M. de Lucan, fut comme traversée par une de ces électricités secrètes, et malgré toutes les objections contraires dont son esprit était obsédé, elle sentit qu'elle était aimée et qu'on allait le lui dire. Elle s'assit dans son grand fauteuil en ramenant ses deux mains la soie de sa robe avec un geste d'oiseau qui bat des ailes. Le trouble visible de Lucan acheva de l'instruire, de la ravir. Chez de tels hommes armés de passions puissantes mais sévèrement contenues, habitués à se maîtriser, intrépides et calmes, le trouble est effrayant ou charmant. Après l'avoir informé, ce qui était inutile, que sa démarche auprès d'elle était une démarche extraordinaire, « Madame, ajouta-t-il, la demande que je vais vous adresser exige, je le sais, une réponse réfléchie. Aussi vous supplierai-je de ne pas me faire cette réponse aujourd'hui, d'autant plus qu'il me serait véritablement trop pénible de l'entendre de votre bouche si elle n'était pas favorable. « Mon Dieu, monsieur, dit Clotilde à demi-voix, Madame votre mère, madame, que j'ai eu l'honneur de voir dans la journée, a bien voulu m'encourager, dans une certaine mesure, à espérer que vous m'accordiez quelque estime, que vous n'avez du moins contre moi aucune prévention. Eh bien, quant à moi, madame, je... Mon Dieu, oui, je vous aime en un mot, et je n'imagine pas de plus grand bonheur au monde que celui que je tiendrai de vous. Vous me connaissez depuis longtemps, je n'ai rien à vous dire de moi. Et maintenant, j'attendrai. » Elle se retint d'un signe et elle essaya de parler. Mais ses yeux se voilèrent de larmes. Elle cacha sa tête dans ses mains et murmura. « Pardon, oh, j'ai été si peu heureuse. Je ne sais pas ce que c'est. » Lucan se mit doucement à genoux devant elle. Et quand leurs regards se rencontrèrent, leurs deux cœurs s'emplirent soudain comme deux coupes. « Parlez, mon ami, reprit-elle, dites-moi encore que vous m'aimez. Oh, j'étais si loin de le croire, et pourquoi, et depuis quand ?» Il lui expliqua sa méprise, sa lutte douloureuse entre son amour pour elle et son amitié pour Pierre. « Pauvre Pierre, dit Clotilde, quel brave homme !» Mais vraiment non. Puis il la fit sourire en lui contant la terreur et la défiance mortelle qu'il avait envahie au moment où il lui demandait l'arrêt de sa destinée. Elle lui avait semblé plus que jamais, en cet instant-là, une créature charmante et sainte, et tellement au-dessus de lui que sa prétention d'être aimé d'elle, d'être son mari, lui était apparue tout à coup comme une sorte de folie sacrilège. « Oh, mon Dieu, dit-elle, quelle idée vous faites-vous donc de moi? C'est effrayant. Au contraire, je me croyais trop simple, trop terre-à-terre pour vous. Je me disais que vous deviez aimer les passions romanesques, les grandes aventures. Vous en avez un peu la mine et même la réputation. Je suis si peu une femme comme cela. » Sur cette légère invite, il lui dit deux mots de sa vie passée, banalement orageuse, et qui ne lui avait laissé que des enchantements et des goûts. Cependant, jamais, avant de l'avoir rencontrée, la pensée de se marier ne lui était venue. En fait d'amour comme en fait d'amitié, il avait toujours eu l'imagination éprise d'un certain idéal, un peu romanesque en effet, et il avait craint de ne pas le trouver dans le mariage. Il avait pu le chercher ailleurs, dans les grandes aventures, comme elle disait. Mais il aimait l'ordre et la dignité de la vie, et il avait le malheur de ne pouvoir vivre en guerre avec sa conscience. Telle avait été sa jeunesse troublée. « Vous me demandez, poursuivit-il avec effusion, pourquoi je vous aime ? Je vous aime parce que vous êtes seul à avoir mis d'accord dans mon cœur deux sentiments qui se l'étaient toujours disputés avec de cruels déchirements. La passion et l'honnêteté. Jamais, avant de vous connaître, je n'avais cédé à l'un de ces sentiments sans être horriblement misérable par l'autre. Il m'avait toujours paru inconciliable. Jamais je n'avais cédé à la passion sans remords. Jamais je ne lui résistais sans regret. Fort ou faible, oh, j'ai toujours été malheureux ou torturé. Vous seul m'avez fait comprendre qu'on pouvait aimer à la fois avec toute l'ardeur et toute la dignité de son âme. Et je vous ai choisi parce que vous êtes aimante et que vous êtes vraie, parce que vous êtes belle et que vous êtes pure, parce que vous êtes le devoir et le charme, l'amour et le respect, l'ivresse et la paix. Voilà pourquoi je vous aime. Voilà quelle femme, quel ange vous êtes pour moi, Clotilde. Elle l'écoutait à demi penchée, aspirant ses paroles et montrant dans ses yeux une sorte d'étonnement céleste. Mais il semble, oh, qui ne l'a éprouvé, que le bonheur humain ne puisse toucher certains sommets sans appeler la foudre. Clotilde, au milieu de son extase, frémit tout à coup et se dressa. Elle venait d'entendre un cri étouffé qui fut suivi du bruit sourd d'une chute. Elle courut, ouvrit la porte, et vit à deux pas dans le salon voisin Julia, étendue sur le parquet. Elle comprit que l'enfant, au moment d'entrer, avait saisi quelques-unes de leurs paroles, et que la pensée de voir la place de son père occupée par un autre, la frappant aussi sans préparation, avait bouleversé jusqu'au fond cette jeune âme passionnée. Clotilde la suivit dans la chambre où elle le rapporta et voulut rester seule avec elle. Tout en lui prodiguant les soins, les caresses, les baisers, elle n'attendait pas, sans une affreuse angoisse, le premier regard de sa fille. Ce regard se fixa sur elle d'abord avec égarement, puis avec une sorte de stupeur farouche. L'enfant la repoussa doucement. Elle se recueillait, et à mesure que la pensée s'affermissait dans ses yeux, sa mère y pouvait lire une lutte violente de sentiments contraires. « Mais je t'en prie, je t'en supplie, ma petite fille, » murmurait Clotilde, dont les larmes tombaient goutte à goutte sur le beau visage pâle de l'enfant. Tout à coup, Julia la saisit par le cou, l'attira sur elle et l'embrassant follement. « Oh, tu me fais bien du mal, » dit-elle, « oh, bien du mal, parce que tu ne peux croire. Mais je t'aime bien, je t'aime bien, je veux t'aimer, je veux toujours, je t'assure. » Elle éclata en sanglots et toutes deux pleurèrent longtemps, étroitement attachées l'une à l'autre. Monsieur de Lucan avait cru devoir cependant envoyer chercher la baronne de Perse à laquelle il tenait compagnie dans le salon. La baronne, en apprenant ce qui se passait, avait montré plus d'agitation que de surprise. « Bon Dieu, je m'y attendais, mon cher monsieur. Je ne vous l'avais pas dit parce que nous n'en étions pas là, mais je m'y attendais parfaitement. Cet enfant-là tuera ma fille. Elle achèvera ce que son père a si bien commencé. Car c'est un pur miracle si ma fille, après tout ce qu'elle a souffert, a repris, comme vous la voyez. Bon, non, je les laisse ensemble, je n'y vais pas. Oh mon Dieu, non, non, je n'y vais pas. D'abord, j'aurais peur de contrarier ma fille, et puis, je sortirai de mon caractère très certainement. Et quel âge a donc mademoiselle Julia ? Demanda Lucan, qui conservait dans ces pénibles circonstances sa courtoisie tranquille. Mais elle va avoir 15 ans, et ce n'est pas malheureux, par parenthèse, car enfin, entre nous, on peut espérer qu'on en sera soulagé, honnêtement, dans 1 an ou 2. Oh, elle se mariera très facilement, très très facilement, soyez sûrs. D'abord, elle est riche, et puis enfin quoi? C'est un joli monstre. On ne peut pas dire le contraire, il ne manque pas d'hommes qui aiment ce genre-là. Clotilde les rejoignit enfin. Quelle que fût son émotion intérieure, elle paraissait calme, n'ayant rien de théâtral dans sa manière. Elle répondit simplement, d'une voix basse et douce, aux questions fiévreuses de sa mère. Elle demeurait persuadée que ce malheur ne serait pas arrivé si elle eût pu apprendre elle-même à Julia, avec quelques précautions, l'événement que le hasard lui avait brusquement révélé. Adressant alors à M. de Lucan un triste sourire, « Ah, oh, ces misères de famille, monsieur, lui dit-elle, ne pouvaient entrer dans vos prévisions, et je trouverais tout naturel que vos projets en soient modifiés. » Une anxiété expressive se peignit sur les traits de Lucan. « Si vous me demandez de vous rendre votre liberté, dit-il, je ne puis que vous obéir. Si c'est votre délicatesse seule qui a parlé, je vous atteste que vous êtes encore plus cher depuis que je vous vois souffrir à cause de moi, et souffrir si dignement. » Elle lui tendit sa main, qu'il saisit en s'inclinant. « J'aimerais tant votre fille, dit-il, qu'elle me pardonnera. » « Oui, je l'espère, dit Clotilde. Cependant, elle veut entrer dans un couvent pour y passer quelques mois. J'y ai consenti. » Sa voix trembla et ses yeux se mouillèrent. « Pardon, monsieur, reprit-elle, je n'ai pas encore le droit de vous donner tant de part à mes chagrins. Puis-je vous prier de me laisser avec ma mère ?» Lucan murmura quelques paroles de respect et se retira. Il était bien vrai, comme il l'avait dit, que Clotilde lui était plus chère que jamais. Rien ne lui avait inspiré une si haute idée de la valeur morale de cette jeune femme que son attitude pendant cette triste soirée. Frappée en plein vol de bonheur, elle était tombée sans cri, sans plainte, en voilant sa blessure. Elle avait montré devant lui cette exquise pudeur de la souffrance, si rare chez son sexe. Il lui en savait d'autant plus de gré qu'il était profondément ennemi de ces démonstrations pathétiques et turbulentes dont la plupart des femmes ne manquent pas de saisir avidement l'occasion quand elles ont la bonté de ne pas la faire naître.